si vous voulez, on va passer à peut-être au deuxième, parce qu'on aura le temps un peu après. Parce qu'on va, on va rester dans l'obésité, hein, donc dans les complications de l'obésité, donc et les mécanismes physiopathologiques. Et c'est le professeur Anne Dutour-Meyer de Marseille qui va nous faire cette présentation.
Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invitée parce que je suis vraiment très contente d'être là pour de multiples raisons. D'abord parce que bon, le réseau environnement santé, c'est un peu des modèles de réseaux qui font bouger. Et ce réseau, il y a Gilles Nalbonne, que je connais bien, qui était dans notre laboratoire. Et c'est assez admirable. C'est commun de s'impliquer pendant sa vie active, mais lorsque on a arrêté la vie active et qu'on se met à fond dans une passion comme ça et qu'on fait bouger les choses, parce que c'est dur de faire bouger dans tout cet environnement et donc je suis très contente qu'il m'ait invitée. Après, le deuxième point, c'est que moi, l'obésité, j'y suis venue tardivement parce que j'avais une autre thématique avant. Et c'est Arnaud Bazdevant, quand je l'ai écouté, qui m'a donné une sorte de passion pour cette approche complètement globale d'une maladie. Et même si aujourd'hui, ce que je vais vous dire n'est pas du tout approche globale, puisque cette fois-ci, je parle des complications de l'obésité, c'est quand même une maladie, comme il vous l'a montré, qui est très passionnante en raison de son côté multifactoriel et de ses complications aussi. Alors, je suis aussi très contente de parler des complications, parce qu'en général, on n'a jamais le temps de parler des complications. On parle vraiment de l'épidémie, de pourquoi l'épidémie, puisque c'est quand même ça qui est le plus étonnant. Mais je crois qu'il y a quelque chose avec cette maladie, c'est que pour les médecins, et nous, on se bat souvent face à d'autres médecins quand on veut défendre notre prise en charge. C'est pas une maladie comme les autres, puisqu'on l'attrape pas. C'est quelque chose, pour tout le monde, on dirait qu'il suffit de plus manger pour ne plus être malade. Et c'est, du coup, on n'arrive pas à en comprendre la gravité. Et c'est que lorsqu'on se pose sur les complications qu'on comprend la gravité. Ensuite, ces complications, c'est ça qui est assez particulier, c'est que beaucoup de ces complications ne sont pas évidemment reliées à l'obésité. Quand vous parlez de la rétinopathie diabétique, c'est vraiment que le diabète qui la donne. Bon, c'est un peu schématique, mais que le diabète qui la donne. Quand vous parlez d'un cancer, bon, votre patient qui vient vous dire qu'il a votre patiente qui vient vous dire qu'elle a un cancer du sein, vous êtes généraliste, vous ne faites pas l'association évidente entre son obésité et le cancer du sein. Donc ce n'est pas des maladies, sauf certaines vraiment spécifiques, mais c'est des maladies qu'on a prouvées liées à l'obésité, et c'est toute la difficulté de cette maladie. Alors, ces complications, elles sont très très importantes, elles sont multiples, et je ne vais pas vous faire la physiopathologie de toutes les complications, je n'ai pas le temps. J'ai choisi de vous parler de certains aspects qui peuvent être reliés, bien que je ne parlerai pas de l'environnement, mais qui vous feront le lien avec l'environnement ensuite. Alors, les complications, je vais quand même vous les citer, et je pense que celles qui sont les plus importantes et dont je ne parlerai pas du tout, c'est quand même tous les problèmes psychologiques dus à l'obésité, à l'acceptation de la maladie, à toute la difficulté à l'embauche. Et donc, tous ces aspects neurologiques aussi de l'obésité, avec le rôle de l'inflammation dans les complications neurologiques de l'obésité, quoi, neuropsychologiques de l'obésité. Alors, celles qui sont le plus connues et reconnues, c'est bien les complications cardiovasculaires. Tout le monde sait que lorsqu'on prend du poids, on peut avoir des complications cardiovasculaires et métaboliques et du diabète. Et je vous parlerai bien puisque c'est là-dessus que je travaille et que je pense que si on m'a demandé de parler des complications de l'obésité, c'est un peu pour que je vous parle de ce qu'il y a de nouveau en recherche sur les complications de l'obésité. Donc ça, c'est bien connu. Ce qui est moins connu et qui est très important, quoi, qui est connu des spécialistes, sont les complications respiratoires de l'obésité. Et ce qui est incroyable actuellement, c'est qu'il y a des tas d'obèses qui n'ont pas eu de dépistage d'apnée du sommeil. Et cette association, hein, tout le monde connaît ce qu'est l'apnée du sommeil. C'est le fait, de pendant la nuit, d'arrêter un petit peu de respirer et du coup avoir un sommeil très perturbé. Le fait de mal respirer, ça crée de l'hypoxie. Donc c'est vraiment un stress pour l'organisme. C'est le pic, un peu l'image dans la réflexion. C'est le cocher de Pickwick là, qui s'endormait en conduisant. Et donc cette maladie, qui est très simple à traiter, je vous montrerai l'intérêt de la traiter tout à l'heure, elle est très peu prise en charge, elle est vraiment liée à l'obésité. Il y a d'autres signes, d'autres complications respiratoires de l'obésité. Il y a beaucoup plus d'asthme chez l'obèse, hein, et on sait maintenant pourquoi. Il y a des fois, le poids gêne énormément pour respirer, donc il y a une sorte de phénomène mécanique qui crée des troubles de la ventilation chez l'obèse. Il y a ensuite l'atteinte du foie. Hein, schématiquement, on dit c'est un peu comme le foie gras. Et ce foie, c'est cette atteinte du foie qui après devient enflammée. C'est un vrai problème de santé publique aux États-Unis. Ça peut évoluer exactement comme pour l'alcool vers une cirrhose éthylique. Et même si ça n'évolue pas vers la cirrhose, ça a vraiment une gravité importante. Et je vous montrerai un petit peu à la fin que ce qu'il y a de particulier avec toutes ces complications, et c'est bien le cas pour le foie, pour l'apnée du sommeil, c'est qu'elles interagissent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'une complication va induire une autre complication, l'aggraver. Et donc, c'est un vrai problème quand on analyse un petit peu l'obésité, parce que c'est des spécialistes qui traitent chaque point, qui en parle, ce qui est normal, et alors que tout est intriqué et fait partie de cette évolution. Et l'atteinte précoce, même avant d'être obèse, au moment où on a déjà eu des déterminants de certaines prédispositions à des complications, est très intéressante. Hein, si on reprend l'image pour suivre un peu ce qu'a dit Arnaud Bazdevant, dans l'évolution de l'obésité, il y a déjà l'évolution des pré-complications et c'est très intéressant. Bon, bien sûr, il y a les complications articulaires qui sont très importantes, les anomalies gonadiques, on en reparlera sûrement, le cancer, les cancers gynéco en particulier, et les cancers digestifs et le risque de phlébite. Alors c'est Jean Vague, il faut que je regarde l'heure parce que je... C'est Jean Vague, donc moi je suis marseillaise, hein, donc c'est normal que je parle de Jean Vague. Moi j'ai commencé le jour de sa... J'étais interne l'année où il est parti à la retraite, mais bon, tout mon externat, qui s'était aperçu, bon on n'était pas dans le cancer, dans les complications cardiovasculaires, mais il s'est aperçu qu'il avait des malades qui avaient mal aux articulations et d'autres malades qui étaient diabétiques. Et donc lui, il avait distingué deux catégories de patients, ceux qui ressemblaient à des hommes, il appelait ça l'obésité androïde, ceux qui ressemblaient à vraiment la caractéristique féminine de l'obésité, c'était l'obésité gynoïde. Et c'est ça qui va entraîner un type ou un autre de complications. Alors en fait, on appelait ça obésité androïde, on s'est vite aperçu que c'était la graisse qui était autour des viscères, qu'on appelle la graisse viscérale, que vous voyez là dans une coupe de scanner. Bon, à l'intérieur, et cette graisse viscérale, comme elle est difficile à analyser, en fait, on mesure le tour de taille. En fait, vous le voyez bien, il y a des gens qui ont beaucoup de ventre ou pas. Et quand on mesure le tour de taille, on peut faire des études épidémiologiques. Donc, on a vite montré, là, je vous cite que le diabète, que plus le tour de taille est important, plus on a de graisse viscérale, plus on a de risque de diabète, même quand on ajuste au poids. Donc on s'était dit, il y a un fort lien, mais est-ce que c'est le hasard, parce que tout est relié quand évolue la maladie? Et donc il y a des gens qui ont essayé d'enlever des graisses, ou d'enlever la graisse sous-cutanée, ou d'enlever la graisse viscérale. Ils l'ont fait particulièrement chez l'homme, chez l'animal, puis chez l'homme. Il y a plein de gens qui se font enlever la graisse sous-cutanée pour être plus esthétiquement mieux, donc la liposuction, et on s'est aperçu que ça améliorait aucun des paramètres de l'inflammation. Et vous savez que c'est cette inflammation dont vous a parlé Arnaud qui entraîne les atteintes des vaisseaux. Donc la graisse viscérale, elle est vraiment nocive. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est plus riche en inflammation, dans ces cellules immunitaires que sont les macrophages. Et c'est toute l'équipe de Karine Clément et de Arnaud Bazdevant qui ont montré que ce tissu adipeux viscéral, il était différent des autres parce que plus inflammatoire. Il est plus inflammatoire, mais il fait aussi des hormones qu'on appelle des adipokines. C'est des hormones qui sont faites par ce tissu adipeux. Hein. Le tissu adipeux, c'est plus juste un organe qui stocke les réserves, comme on croyait, mais c'est un organe qui communique avec le cerveau, qui communique avec les vaisseaux. Et donc, ce tissu gras dans les viscères, le tissu adipeux viscéral, eh ben, il donne des informations qui sont un peu nocives et qui induisent une moins bonne action de l'insuline qui induit toutes les anomalies biologiques associées au diabète, au foie gras. Et encore plus intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dialogue entre ces cellules inflammatoires et les autres cellules du tissu adipeux. Et ce dialogue fait que ce tissu adipeux, il arrive plus bien à s'expandre. Et s'expandre, c'est important parce que quand on mange trop, il faut que ce qu'on mange en trop soit stocké dans la graisse sous-cutanée en particulier ou viscérale. Si on n'arrive plus à la stocker au bon endroit, eh ben, vous verrez ce qui arrive. C'est ce que je vais vous montrer après. Donc le tissu adipeux, comme on vous a dit précédemment, lorsqu'il est trop inflammatoire, eh ben, il se fibrose, vous savez, un peu comme dans les cicatrices, et donc il ne peut plus s'adapter. Quand on est fibrosé, on ne s'adapte plus. Alors plus intéressant maintenant, c'est qu'on sait que ce n'est pas que... Quoi. La question c'est pourquoi il y a cette inflammation et pourquoi on fait trop de tissu adipeux viscéral. Et donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs épigénétiques, je vous en parlerai un petit peu. Et il y a aussi, ce qui est très à la mode, le microbiote, c'est-à-dire les bactéries qu'on a normales dans notre intestin. Lorsqu'on mange trop gras et lorsqu'on n'a pas les bonnes bactéries, eh ben, elles vont passer à donner des signaux à partir du LPS vers notre tissu adipeux et donc ça va induire la présence de lymphocytes et de macrophages. Alors donc on sait, là je vais passer parce que c'est un petit peu trop compliqué, qu'en fait c'est pas que les macrophages, c'est toute la balance du système immunitaire qui est perturbée. Et il y a des cellules qui régulent les lymphocytes, qu'on appelle qui régulent la réponse immune, qu'on appelle les cellules, les lymphocytes T régulateurs, et c'est peut-être eux qui sont les premiers anormaux dans le tissu adipeux. Alors nous, on a travaillé sur une hormone aussi, le cortisol, l'hormone du stress. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tissu adipeux viscéral, il a une capacité de modifier l'hormone du stress. C'est-à-dire que ces hormones de stress, qui est le cortisol, une fois inactives dans le tissu adipeux, il y a une enzyme, la 11-bêta-HSD1, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le domaine de la recherche. Cette enzyme, elle est capable de rendre la cortisone inactive en cortisol actif. Donc, elle permet la réactivation de cette hormone, du stress. Et on sait que cette hormone, elle a des effets anti-insuline. C'est une hormone qui induit de la résistance à l'insuline, des anomalies métaboliques. Et on avait montré que cette enzyme, elle est complètement surexprimée dans le tissu adipeux viscéral. Donc il y en a beaucoup plus dans le tissu adipeux viscéral des gens obèses. Il y a aussi plus du récepteur de l'hormone. Et ce qui est vraiment très intéressant, qui parle quand même, c'est que si on prend quelqu'un qui est obèse et qu'on lui injecte un tout petit peu d'hydrocortisone, d'hormone, exactement comme s'il avait un petit stress, eh ben ce patient, il va faire beaucoup plus de résistance à l'insuline, d'hormones qui induisent la thrombose, que quelqu'un d'autre à cause de cette enzyme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ça, c'est qu'il y a, des modèles de si on modifie un petit peu le rat à la naissance, hein, qu'on lui fait on le fait manger un petit peu trop à la naissance, dans un modèle de programmation, on en reparlera tout à l'heure, de la programmation néonatale de maladies métaboliques, on peut, avec une toute petite modification pendant prise d'aliments un petit peu supérieurs pendant les premiers jours de vie, on peut programmer des anomalies de tout ce système et donc induire une répartition anormale de la graisse et sans grande obésité prédisposer aux complications de l'obésité. Avec une petite modification, on modifie la 11-bêta-HSD1 et les rats feront plus de tissu adipeux viscéral et seront particulièrement sensibles au régime gras. C'est des rats qui, en cas de régime gras, font beaucoup plus d'inflammation. Bon, ça va aller un peu plus vite. Bon, il y a d'autres phénomènes. Donc, ce tissu adipeux viscéral, pendant longtemps, on a pensé que c'était lui qui était l'élément clé dans tous les événements qu'on voit chez le diabétique et qui induisent le risque cardiovasculaire, chez l'obèse, et qui induisent le risque cardiovasculaire, en particulier le risque d'infarctus du myocarde et le diabète de type 2. Mais alors, on s'est demandé aussi qu'est-ce que beaucoup de gens se sont intéressés aux autres tissus adipeux. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est les travaux sur des maladies où on n'a pas de tissu adipeux sous-cutané. Et quand on n'a pas de tissu adipeux sous-cutané, on fait aussi des complications. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tissu adipeux sous-cutané, il faut qu'il soit en bon état, il faut qu'il ne soit pas fibrosé, il soit capable de s'expandre, parce que si on ne peut pas stocker ce qu'on mange dans le tissu adipeux sous-cutané, il n'y a rien qui va. Et donc là, il y a eu Després qui a mis en exergue un concept qui est vraiment très intéressant, c'est que ce qui est grave dans l'obésité, c'est quand le tissu adipeux sous-cutané devient dysfonctionnel, que le tissu adipeux viscéral se développe, et à ce moment-là, la graisse ne peut plus se stocker au bon endroit, c'est un peu schématique, et donc elle va se stocker dans des endroits anormaux, en particulier autour du cœur, autour des vaisseaux, dans le foie, dans les muscles, dans le pancréas, à la fois du tissu adipeux et des contenus en triglycérides dans le pancréas, et dans le cœur, à l'intérieur du cœur. Et c'est tout ce qu'on appelle l'ectopie. Et cette ectopie est à l'origine d'une grande partie des complications. Et comprendre comment l'environnement, comment l'épigénétique, comment la génétique module l'ectopie, c'est très intéressant. Et nous, je vous montrerai qu'on a fait un travail sur le rôle du poids de naissance sur le développement du tissu adipeux épicardique. Donc nous, on s'était demandé très simplement, c'est quand on a plus de graisse autour du cœur, est-ce qu'on fait plus de maladies cardiovasculaires? Et pour ça, on avait pris des cœurs, des cœurs de sujets qui étaient morts de mort brutale, hein, tout bêtement. Et l'intérêt, c'est que c'était des gens souvent qui avaient été tués, donc qui pouvaient être très jeunes, en bonne santé ou malades. On a rarement des sujets jeunes en bonne santé bien explorés. Et donc là, on avait pu mesurer la quantité de graisse et voir que si on mesurait aussi comment étaient leurs artères, parce qu'on pouvait les disséquer, plus les artères étaient bouchées, plus il y avait de graisse autour du cœur. Donc il y avait un lien très fort entre la graisse autour du cœur et le côté bouché des artères. Et il faut savoir que ces artères, les artères coronaires, les artères du cœur, elles sont vraiment enchâssées directement dans cette graisse qui est autour du cœur. Donc en fait, la graisse locale autour des artères peut agir sur ces artères pour les modifier. Donc on avait d'abord regardé un peu, ensuite on a regardé en association avec Karine Clément quelles étaient les caractéristiques de ce tissu adipeux qui est autour des artères du cœur, et on s'est aperçu qu'il est un peu comme le tissu adipeux viscéral, il est très inflammatoire et il fait même directement des molécules qui peuvent agir sur la plaque d'athérome comme SPLA2. On a ensuite regardé le contenu en triglycérides dans le cœur. Donc cette fois-ci, c'est pas ce qui est autour du cœur, mais c'est la graisse, les triglycérides qui sont au sein du muscle cardiaque à l'intérieur. C'est des petites vésicules à l'intérieur. Et là, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que, donc ça c'est par spectro-RMN, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre combien il y a de graisse à l'intérieur du cœur et quelle est la fonction de ce cœur, c'est-à-dire s'il arrive à bien se contracter. Si le cœur n'arrive pas bien à se contracter, c'est souvent parce qu'il y a trop de graisse à l'intérieur du cœur. Donc c'est bien la maladie, l'obésité. Deux minutes, c'est ça ? Ouais. D'accord. Ensuite, on a pu montrer, j'ai pratiquement fini, qu'il y avait un lien entre... Quoi, on a pu montrer que ce tissu adipeux, ça agissait très précocement. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est toute cette évolution. Et donc, chez des universitaires qui étaient des volontaires, on a regardé si la quantité de tissu adipeux autour du cœur influençait sur la réponse au froid. On met la main dans le froid et normalement, quand c'est un stress, et les artères du cœur doivent se dilater pour bien pouvoir réagir, et il y a des patients chez qui elles se dilataient pas bien, c'était des gens jeunes en bonne santé, et c'était déjà ceux qui avaient trop de graisse autour de leurs artères du cœur. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que c'est un phénomène précoce, et on a pu aussi montrer que quand on naît avec un poids de naissance un peu trop gros, et ben on a plus tendance à avoir de la graisse autour du cœur. Bon, ça je vais passer. Donc pour nous, il y a cette graisse viscérale qui donne le risque métabolique, la graisse autour du cœur qui donne le risque au coronaire, et la graisse autour des autres artères aussi est importante, et la graisse dans le cœur qui donne un risque de dysfonction du cœur. Alors ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que toutes les complications sont complètement associées, interagissent les unes avec les autres, et c'est vraiment une maladie avec on pourrait rajouter plein de flèches au tableau, plein de flèches qu'on a déjà vues précédemment. Alors je vais donner des exemples qui sont bien connus. On sait que le diabète, ça augmente le risque cardiovasculaire, on sait que l'atteinte du foie, ça augmente l'insulinorésistance et le risque de diabète, et ce qui est intéressant, c'est l'apnée du sommeil. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre vraiment ces interactions. Donc l'apnée du sommeil, bon, on va passer sur les mécanismes, hein, mais c'est un stress énorme parce que ça entraîne un trouble du sommeil déjà, c'est important de bien dormir pour les rythmes, ça entraîne de l'hypoxie, hein, on est mal oxygéné, l'hypoxie, ça entraîne plein de phénomènes de stress, d'activation sympathique, etc. Et ça, c'est à la source des anomalies cardiovasculaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la traiter, cette apnée du sommeil. Et donc, si on traite l'apnée du sommeil, donc là, vous voyez, en rouge, en bas, regardez que la diapo du bas, tous les risques de maladies cardiovasculaires qu'on a quand on a de l'apnée du sommeil. Il y a ce très beau travail qui a montré que lorsqu'on traite l'apnée du sommeil, on réduit complètement le risque cardiovasculaire. Et donc, ça prouve, donc, quand on a traité l'apnée du sommeil, on est dans les pointillés, là, donc on est comme si on n'avait pratiquement pas d'apnée du sommeil. Donc ça en risque cardiovasculaire. Donc ça montre que une complication interagit sur les autres complications. C'est pas juste du hasard, hein, parce que c'est pas des risques communs, puisque lorsqu'on traite cette complication, et ben d'un coup on peut complètement réduire une autre complication de l'obésité. Et donc c'est important de s'interroger sur les mécanismes de chaque complication pour pouvoir essayer de trouver des traitements spécifiques qui pourront essayer de stopper certains phénomènes en boucle. Donc, bon, j'espère vous avoir montré que l'obésité, ça se complique, même si je n'ai pas parlé de chiffre de mortalité, même si je n'ai pas parlé de cancer. J'ai choisi quelques complications parce que c'était un petit challenge, hein, de parler de physiopathe des complications 20 minutes et pas parler d'un peu ce qui allait se dire dans la suite aussi. Donc, je crois que il faut arrêter de parler de l'obèse tout court, il faut prendre du temps pour phénotyper les obèses, hein. Je crois qu'il y a des centres comme le centre de la Pitié qui phénotypent merveilleusement bien leurs obèses, parce qu'il faut savoir même les pré-obèses, même avant, quoi, pour comprendre qui est à risque, quelles complications, quelle prise en charge en fonction. Il faut progresser dans les connaissances sur la physiopathie des complications. Et c'est clair que cette physiopathie, elle est aussi fonction des causes de l'obésité. Et donc, on peut faire des liens forts entre facteurs environnementaux et certains types de complications. Hein. Et donc, identifier ces facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux à l'origine du développement des complications et des tissus adipeux spécifiques. Je vous remercie. Voilà.